Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean, texte de la liturgie catholique romaine pour le 17e dimanche. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, dite de Tibériade. Une grande foule le suit, parce qu'ils ont perçu les signes qu'il accomplit sur les malades. Avec ses disciples, Jésus monte sur la montagne et là, il s'assoit. La Pâque, la fête des Juifs, est proche. Levant alors les yeux et voyant qu'une foule nombreuse vient à lui, Jésus dit à Philippe,
« Où achèterons-nous des pains pour que ces gens mangent ?»
Il dit cela pour l'éprouver, car il sait, lui, ce qu'il va faire. Philippe lui répond,
« 200 deniers de pain ne leur suffisent pas pour que chacun reçoive un peu. »
Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit,
« Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?»
Jésus dit,
« Faites étendre les gens. »
Il y a beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'étendent. Les hommes sont au nombre d'environ 5 000. Jésus prend alors les pains. Et ayant rendu grâce, il les partage aux convives, de même des poissons autant qu'ils en veulent. Quand ils sont rassasiés, il dit aux disciples,
« Ramassez le surplus des morceaux afin que rien ne soit perdu. »
Ils rassemblent donc et remplissent 12 gouffins avec les morceaux provenant des 5 pains d'orge, qui sont de reste à ceux qui ont mangé. Alors les gens, voyant le signe qu'il a accompli, disent,
« Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. »
Alors Jésus, sachant qu'ils vont venir et l'enlever pour le faire roi, se retire plus avant dans la montagne, seul.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Après l'écoute d'un tel récit, nous pourrions conclure du pain et encore du pain. Ce pain qui est l'aliment de base pour une grande partie de l'humanité. Encore aujourd'hui, dans nos grandes villes du monde soi-disant développées, des organismes communautaires doivent lutter afin de permettre à des enfants de manger à leur faim.
Oui, et lorsque nous avons le privilège de manger à notre faim, alors peut-être se posent d'autres questions. Qu'est-ce qui fait vraiment vivre? Qu'est-ce qui donne sens à la vie? Est-ce que Jésus donne du pain uniquement pour nourrir le corps? Ou pouvons-nous vraiment comprendre le signe qu'il accomplit ici dans ce grand repas des pains? Eh bien, pour cela, citons le récit dans l'évangile de Jean. Jésus vient de terminer un long discours sur les œuvres que le Père lui a données à accomplir. Ce sont elles, dit-il, qui portent témoignage que le Père m'a envoyé. Cependant, ce témoignage ne va pas être accueilli par la plupart des gens qui écoutent Jésus.
Le Père qui m'a envoyé a lui-même porté témoignage à mon sujet. Mais jamais vous n'avez ni écouté sa voix, ni vu ce qu'il le manifestait. Vous scrutez les écrits parce que vous pensez acquérir par eux la vie éternelle. Ce sont eux qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle.
C'est dans ce contexte que Jésus intervient pour nourrir une grande foule. Ce repas des pains multipliés tient en effet une place centrale, aussi bien dans le récit de Jean que dans les 3 autres récits évangéliques. Le repas marque le sommet et sans doute le terme de l'activité de Jésus en Galilée. Pour ceux qui ont été attirés par le prophète Jésus, ce sera le moment de l'option décisive. Est-ce qu'ils vont croire en ses paroles, ou bien au contraire, est-ce qu'ils vont refuser de voir que sa mission vient vraiment du Père divin? Cela, en effet, amène Jésus à poser la question de confiance à ses disciples.
Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils ne marchaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, auprès de qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous, nous croyons, et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. »
Alors comment comprendre cette réaction qui va être une réaction d'abandon de beaucoup des disciples? Pourquoi ceux qui vont le quitter n'ont-ils pas compris les signes que Jésus venait de poser?
Une grande foule le suit, parce qu'ils ont perçu les signes qu'il accomplit sur les malades.
Eh bien, pour mieux peut-être comprendre cela, faisons un rapide résumé des chapitre qui précède ce grand repas des pains multipliés, pour voir quels sont les signes que Jésus a donnés. Le récit de Jean nous a d'abord présenté le geste des noces de Cana où Jésus a changé l'eau en vin.
Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.
Voilà, le premier signe pour Jean est celui du repas de noces de Cana. Puis, nous avons le geste éclatant des vendeurs chassés du parvis du temple, ces vendeurs qui, pour Jésus, profanent la maison de Dieu. Là, les Judéens demandent un signe pour accréditer ce geste. Quel signe nous montreras-tu pour agir de la sorte? Et Jésus va répondre par une parole qui restera énigmatique tant que la résurrection ne sera pas venue l'éclairer.
Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Mais lui parlait du temple de son corps.
Puis, on nous dit que Jésus accomplit des signes, mais sans préciser ce que sont ces signes.
Tandis que Jésus séjournait à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il opérait.
Le récit ajoute aussitôt d'ailleurs que cette foi n'est pas véritable.
Mais Jésus, lui, ne croyait pas en eux, car il les connaissait tous. Il n'avait nul besoin qu'on lui rendît témoignage au sujet de l'homme. Il savait, quant à lui, ce qu'il y a dans l'homme.
L'évangile de Jean se poursuit alors par la rencontre entre Jésus et Nicodème. Nicodème qui semble avoir foi en Jésus et comprendre les signes qu'il accomplit.
Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. »
Et pourtant, cette fois encore, Jésus va faire comprendre à Nicodème qu'il lui faut accéder à un autre niveau, et cela en se laissant engendrer de l'esprit.
« Tu es maître en Israël et tu n'as pas la connaissance de ces choses. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant vous ne recevez pas notre témoignage. »
Jésus va alors faire un passage dans la province hérétique de Samarie, et cela provoque une rencontre entre Jésus et des Samaritains qui, eux, ces hérétiques, semblent croire vraiment en lui.
« Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. »
Puis Jésus arrive en Galilée, et là un officier royal vient lui demander de guérir sa fille, et cela suscite cette réflexion de Jésus.
Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez point. L'officier royal lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Jésus lui dit, va, ton fils vit. Et l'homme crut la parole que Jésus lui avait dite, et s'en alla.
Après la guérison d'un paralytique lors d'un nouveau voyage à Jérusalem, le témoignage de Jésus n'est pas davantage accueilli.
Dès lors, les Juifs n'en cherchaient que davantage à le faire périr, car non seulement il violait le sabbat, mais encore qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu.
C'est dans ce contexte, un contexte fait d'incrédulité et de méfiance de la part de beaucoup, que va se situer le grand repas des pains. La foule des pauvres, ces pauvres qui suivent Jésus, eh bien cette foule sera-t-elle plus disposée à croire qu'il accomplit une mission qui vient vraiment du Père qui est Dieu ?
Où achèterons-nous des pains pour que ces gens mangent ?
La pensée des gens de la Bible est nourrie de toute l'histoire du peuple de Dieu. Et ce geste des pains que Jésus va faire rappelle plusieurs moments de cette histoire. Évoquons d'abord l'épisode où Élisée va multiplier les pains.
Il y avait alors une famine dans le pays. Sur la récolte nouvelle, quelqu'un offrit à Élisée 20 pains d'orge et du grain frais. Élisée dit alors,
« Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. »
Son serviteur répondit,
« Comment donner cela à 100 personnes ?»
Élisée reprit,
« Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. »
Alors il les servit, ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur.
On ne voit que plusieurs détails rapproche ce texte d'Élisée du repas des pains multipliés. Le serviteur d'Élisée est un jeune garçon comme le jeune qui va offrir les 5 pains. Et là, comme ici, ses pains sont des pains d'orge. Alors on peut comprendre la réaction de la foule qui va reconnaître en Jésus un prophète et un prophète plus grand qu'Élisée. Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Cette réflexion de la foule renvoie probablement au prophète tant attendu qui devait être un nouveau Moïse selon la promesse de Dieu que l'on trouve au chapitre 18 du Deutéronome.
Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai.
D'ailleurs, plusieurs allusions de notre récit vont renvoyer au temps du désert. Le repas est censé en effet se passer alors que la Pâque, la fête des Juifs, est proche. Il s'agit là sans doute moins d'une précision chronologique que d'une allusion à l'épisode de la manne qui s'est passé dans le désert. Et si cela est vrai, rappelons-nous l'épisode de la manne et aussi la compréhension qui s'en était faite au long des siècles.
Dans le désert, toute la communauté murmura contre Moïse et Aaron.
Ah, si nous étions morts au pays d'Égypte quand nous mangions du pain à satiété, vous nous avez fait sortir dans ce désert pour laisser mourir de faim toute cette assemblée.
Le Seigneur dit à Moïse,
« Du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour la ration quotidienne. Vous vous rassasirez de pain et vous connaîtrez que c'est moi, le Seigneur votre Dieu. »
Le matin, sur la surface du désert, il y avait quelque chose de fin, de crissant. Les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre,
« Manou, qu'est-ce que c'est ?»
Moïse leur dit,
« C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Recueillez-en autant que chacun peut manger, d'après le nombre de vos gens. »
La maison d'Israël donna à cela le nom de manne. C'était comme de la graine de coriandre blanc avec un goût de beignet au miel. Le Seigneur dit à Moïse,
« Jusque à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois ?»
Les fils d'Israël mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée en pays habité.
Eh bien, cet épisode de la manne comporte deux leçons pour Israël. La première est que la création peut nourrir les humains en n'importe quel lieu, même dans le désert. Et l'on doit voir en cela un don du Créateur. Il faut pourtant veiller à ce que certains n'accumulent pas en stockant pour l'avenir. La manne, en effet, ne se conservait pas et chacun devait en cueillir uniquement selon ses propres besoins. On retrouvera cette même leçon dans les paroles de Jésus, rappelons-nous, la parabole du fermier stockeur.
Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. J'en bâtirai de plus grands et j'y rassemblerai tout mon blé et mes biens. Et je me dirai, te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues années. Repose-toi, mange, bois, fais bombance. Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu as préparé, qui donc l'aura ?» Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même au lieu de s'enrichir auprès de Dieu.
Et Jésus dira à ses disciples, « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez, car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. » La deuxième leçon qu'il faut tirer de l'épisode de la manne, et qu'il faut dépasser les besoins matériels pour nourrir notre vie spirituelle. La parabole du fermier parle de s'enrichir auprès de Dieu. Déjà, le Deutéronome reliait une leçon semblable à l'épisode de la manne.
Le Seigneur Dieu t'a mis dans la pauvreté, il t'a fait avoir faim. Il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères ne connaissiez, pour te faire connaître que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur.
Cette réponse, elle sera mise dans la bouche de Jésus lors des tentations du désert. Le livre de la Sagesse explicitait ce message.
Par la manne, tes fils que tu as aimés, Seigneur, devaient apprendre que ce n'est pas la production de fruits qui nourrit l'homme, mais bien ta parole qui fait subsister ceux qui croient en toi.
Que l'être humain ne s'abaisse donc pas au rang de l'animal en réduisant son horizon au bien matériel. Voilà la leçon que ne cesse de redire la Bible.
faites étendre les gens. Il y a beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'étendent, les hommes sont au nombre d'environ 5 000. Jésus prend alors les pains, ayant rendu grâce, il les partage aux convives.
Pour comprendre ce geste de Jésus, redisons le sens du repas dans la Bible. Lorsqu'il puise dans l'univers ce qui lui est nécessaire pour vivre, c'est-à-dire l'eau, l'air, les végétaux, un lien vital unit l'être humain à la création. Et ce lien doit le conduire au Créateur, le Créateur qui est la source de tous ses biens. Voilà pourquoi on rend grâce avant de manger. L'humain s'animalise et se détruit si le repas n'est pour lui que manger et boire. Il faut unir à ce besoin corporel la satisfaction du besoin spirituel. Et c'est pourquoi le repas doit à la fois unir les convives entre eux, mais aussi les relier à Dieu. En Orient, on ne mange pas avec des gens que l'on ne connaît pas. Entre convives, il ne suffit pas de parler de la pluie et du beau temps. Le dialogue doit se situer au niveau spirituel. Quand deux ou trois sont réunis et parlent de la Torah, Dieu est au milieu d'eux, dit la tradition juive. Les récits évangéliques nous montrent que Jésus a souvent vécu cette communion des convives. Le grand repas des pains est lui aussi lié au partage de la parole. Les textes de Marc et de Luc sont sur ce point très explicites.
En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses.
Les trois récits synoptiques notent que cet enseignement a duré tout le jour. Le récit de Jean, lui, va traduire cela d'une manière plus succincte. Avec ses disciples, Jésus monte sur la montagne et là il s'assoit. Eh bien, l'expression « il s'assoit » est symbolique, comme celle que la langue française donne au mot « chair », C-H-A-I-R-E, qui vient du vieux verbe « soir » qui a donné « s'asseoir » et qui désigne à la fois un siège à dossier, mais aussi la fonction d'enseigner. Dans les universités, on parle par exemple d'une chaire de philosophie ou de physique. Eh bien, dans la langue biblique, on dit des rabbis qu'ils sont assis sur la chaire de Moïse. Le repas des pains n'est donc pas d'abord un geste magique de multiplication. Pour Jésus, il s'agit d'un grand moment de communion avec Dieu pour tous ceux qui ont écouté son enseignement. La mention de l'herbe est aussi évocatrice du psaume du bon pasteur, le psaume 22.
Le Seigneur Dieu est mon pasteur, je ne manque de rien. Sur de frais herbages, il me fait coucher. Près des eaux de repos, il me mène. Devant moi, tu dresses une table.
Les foules rassemblées par Jésus sont souvent faites de ceux qu'on appelait alors les amarrets, c'est-à-dire de ceux qui sont les pauvres, les rejetés de la société du temps. Ils sont donc invités à la table du Seigneur, ces pauvres, par ce Seigneur qui va rompre pour eux le pain de sa parole et de son amour. Ils seront tous rassasiés, et il y en aura pour le peuple entier de ceux qui viendront à l'avenir écouter Jésus. Tel est sans doute le sens de ces 12 paniers, autant qu'il y a d'apôtres, à l'image du premier peuple de Dieu qui était formé de 12 tribus. Le nombre des hommes, 5 000, est aussi un symbole évocateur. Marc, ici, est encore plus explicite.
Il leur commanda d'installer tout le monde par groupe sur l'herbe verte et s'étendirent par rangées de 100 et de 50.
5 000, eh bien c'est la somme de 50 fois 100. Voilà encore un écho de la période du désert et de la façon dont Moïse y avait organisé le peuple pour lui donner des responsables. Écoutons le chapitre 18 de l'Exode.
Le beau-père de Moïse lui dit, « Tu vas t'épuiser, la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne peux l'accomplir seul. Tu discerneras dans le peuple des hommes craignant Dieu, dignes de confiance. Tu les établiras comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines. Ils jugeront le peuple en permanence. »
Ainsi, Jésus se présente comme le nouveau prophète semblable à Moïse, lui qui va maintenant confier son peuple aux apôtres, pour que ce peuple ne soit plus comme des brebis sans pasteur. En Marc et en Luc, ce sont les apôtres qui distribuent le pain. Et ils rapportent la demande de Jésus, « Donnez-leur vous-même à manger. » Eh bien, dans la suite de l'histoire, la communauté église se donnera des pasteurs pour qu'ils rompent le pain de l'Évangile.
«
Alors Jésus, sachant qu'ils vont venir et l'enlever pour le faire roi, se retire plus avant dans la montagne seul.
Le geste hautement symbolique de ce grand repas devait en effet conduire les foules à voir en Jésus le prophète attendu. L'occupation du pays par Rome depuis près de 100 ans avive en effet l'espérance d'un libérateur. La foule des pauvres qui sont victimes des lourdes taxes romaines met son espoir dans la venue d'un Messie. Il est donc naturel que cette foule pousse Jésus à prendre la tête d'un mouvement de libération. Depuis des décades, et particulièrement en Galilée, il y a des militants qui tendent souvent des embuscades aux soldats de Rome. Mais lui, Jésus, va refuser. Il explicitera son refus le lendemain dans la synagogue de Capharnaüm. C'est que la foule risque de réduire son cri vers Dieu à un besoin de pain, et elle risque d'oublier que sa détresse spirituelle est encore plus dramatique.
« Ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. »
Dans son ouvrage « Jésus raconté par le Juif errant », Edmond Flegg, un Juif, décrit les raisons du refus de Jésus de prendre la tête de ceux qui, plus tard, s'appelleront les Zélotes. Moi, je rentre à la maison. Il refuse, il veut que le royaume se fabrique tout seul. Et cet homme-là craint qu'on l'enchaîne comme le baptiseur. Mais qui pense à l'arrêter? À qui fait-il peur? Tous le laissent pérorer. Il dit aux pauvres, tu es heureux. Les riches peuvent dormir. Il dit aux tâcherons, trime pour le Romain. Le Romain peut rire. Moïse allait-il ferrer la poussière sous les sandales du Pharaon? Élie léchait-il les pieds de Jézabel? Eux, ils marchaient droit, ils parlaient droit, on savait ce qu'ils voulaient. Et le baptiseur, caressait-il la chienne d'Hérodiade? Mais ce rêveur, ce trembleur dont la parole fuit et qui fuit derrière elle, un messie qui n'ose pas être roi, le messie des songes creux, le messie des femmes. Je te le laisse, Ruben, ton messie. Et voilà comment Baruch le Zélote quitta Jésus le Galiléen. C'est peut-être ainsi que la foule comprendra le refus de Jésus et que beaucoup cesseront dès lors de le suivre. Nous retrouvons ici la question des signes et combien il semble difficile de les voir et de les comprendre lorsque l'être humain en reste au plan de ses besoins matériels. Quoiqu'il eût opéré devant eux tant de signes, ils ne croyaient pas en lui. Oh, non pas qu'il faille ignorer ses besoins. La misère, l'exploitation des pauvres par les riches, est un mal et un mal dont Dieu est le premier à souffrir. La dimension divine de l'être humain ne saurait être ignorée sans que cela rende encore plus insupportable la misère. Cela est indigne de l'humain et c'est un blasphème envers Dieu qui veut l'humain à son image. La vie, pour être vraiment humaine, ne peut être que divine. Voilà la mission de Jésus et sa souffrance devant le refus de ses compatriotes. « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. » C'est sa parole et son amour qui communiquent la vie divine et en font vivre. Les Galiléens se cherchaient eux-mêmes. Ils suivaient leur rêve messianique au lieu de s'ouvrir au don de Dieu. Ils cherchaient leur pain et non pas le sien. Et voilà l'enseignement. La recherche de soi empêche de lire le signe comme étant une révélation du Christ et de s'ouvrir à la foi. Eh bien, après 2000 ans d'annonce de l'Évangile, ne sommes-nous pas encore au même point? Combien, aujourd'hui, de ses disciples témoignent-ils de la priorité du spirituel? Combien, aujourd'hui, de ses apôtres se révèlent vides d'espérance, comme le disait il y a 50 ans le cardinal Suard?
Il n'est sans doute pas pour un chrétien de plus douloureux échec. L'apôtre était parti joyeusement porteur de la bonne nouvelle, et voici qu'il se découvre soudain les mains vides. Le message dont il est chargé s'est obscurci, le trésor a été dissipé. Il a fait, en sens inverse, le geste du marchand de l'Évangile, qui vend ses biens pour acquérir la perle sans prix. Lui, il a laissé fuir le trésor divin, il ne lui reste plus qu'offrande humaine. En vain prodigue-t-il son dévouement, son amitié. Il est incapable de répondre à l'attente. Car l'homme ne se rassasit pas seulement de pain, ni de bien-être, ni de tendresse humaine. De quelque nom qu'il le désigne, il est affamé de Dieu.
Ce que l'archevêque de Paris disait des prêtres, eh bien, cela est valable de chaque chrétien. Être témoin, c'est vivre de telle façon que la vie soit inexplicable si Dieu n'existe pas.
C'était « Du pain sur la table », une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
256-4110. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Vous pouvez également vous abonner, soit pour 3 mois, 6 mois, 1 an, au feuillet ou aux cassettes. Téléphonez-nous, nous vous donnons toutes les informations.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.
Nous organisons également, de septembre à décembre, un parcours d'initiation à l'Évangile. Chaque mardi soir, de 18h à 21h, nous suivrons Jésus de son baptême jusqu'à sa mort et à sa résurrection. Ce parcours, il est ouvert à tout le monde, aux débutants, j'allais dire, dans la connaissance de l'Évangile, comme à ceux qui veulent animer des groupes. Il a lieu au 500A Avenue Mont-Royal, dans les locaux du Relais Mont-Royal. Pour avoir plus amples informations, téléphonez au 931-7311, 931-7311, et demandez Monique Paquin. Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.